Merci à vous d'être passé au travers des gouttes et d'être venu dans ce lieu pour recevoir la bénédiction d'en haut. Alléluia. Il pleut sur notre terre, mais Dieu veut faire aussi pleuvoir des bénédictions dans nos vies et dans nos cœurs. Alléluia. Et puis on sait que la pluie est bonne pour la nature. Et les bénédictions de Dieu sont bonnes pour l'être humain. Or, on peut toujours refuser la pluie, ça n'a pas trop grande importance, mais on ne peut pas refuser les bénédictions éternelles, cela nous priverait d'un salut éternel. Mais à chacun son choix. Nous allons lire quelques versets de la parole de Dieu. Parce que je viens de dire ceci, à chacun son choix. Et cet après-midi, je voudrais simplement vous dire avec beaucoup d'amour, osez croire. Osez croire. Non pas à une philosophie, à une religion, à l'être humain, mais croire en celui qui peut tout. C'est-à-dire croire en Jésus-Christ. Le sauveur du monde. La parole de Dieu nous le présente ainsi, et c'est vrai. Je dirais aussi croire en la parole qu'il a apportée, mais aussi qu'il a transmise et enseignée à ses apôtres, et qui, par la grâce de Dieu, est parvenue jusqu'à nous au travers des siècles. Vous n'êtes pas sans savoir que des hommes ont essayé de détruire ce que l'on appelle la Bible, parole de Dieu. On a essayé de la faire disparaître. On a mis parfois, dans certains endroits, la Bible en tas. Quand on en trouvait, on y mettait le feu. On voulait supprimer la parole de Dieu. Mais la Bible nous apprend que la parole de Dieu subsiste éternellement. Et les hommes peuvent s'élever, se révolter. Elle sera toujours transmise. Alléluia. Dans certains endroits du monde, il y a quelques années, on ne pouvait pas avoir la parole de Dieu. Celui qui était pris avec une Bible se retrouvait en prison. Eh bien, il y a des gens qui ont résisté à cela. Et dans une certaine église des pays de l'Est, il nous est dit qu'ils n'avaient qu'une seule Bible. Et il fallait la garder. Et alors, ils se sont réunis et ils ont trouvé la solution. L'église était assez conséquente. Et chacun avait appris de cette Bible un verset, un chapitre, etc. Et quand le prédicateur apportait le message, il citait seulement la référence et quelqu'un dans la salle citait, lui, le verset. On ne peut pas arrêter la puissance de la parole de Dieu. Et quand on a le désir de posséder la parole de Dieu, on a un trésor immense. C'est pour cela que, je vous le répète, en cet après-midi, vous qui êtes dans cette salle, osez croire en Jésus-Christ, osez croire en l'amour de Dieu, osez croire aux promesses de Dieu, et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Alléluia. Alors, je vais lire quelques versets avec vous. Tout d'abord, dans Matthieu, au chapitre 9 et verset 28, nous allons justement, au travers de la parole de Dieu, citer quelques exemples de personnes qui ont cru à des moments bien précis de leur vie. Et le premier de ces textes va nous ramener de suite à cette pensée de cet après-midi, chapitre 9. Voilà. Et là, nous allons lire au verset 8e, mais je vais peut-être commencer avant Matthieu, chapitre 8. C'est bien ce que j'ai dit. Hein. Oui. Non, 9, pardon, 9, 9. Et je vous ai dit quoi, 8e ? Excusez-moi, c'est 28e. Il ne faut pas que je fasse d'erreur. D'ailleurs, on va lire à partir du 27. « Comme Jésus s'en allait, deux aveugles le suivirent en criant, « Aie pitié de nous, fils de David !» À son arrivée à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur !» Lui répondirent-ils, Alors il leur toucha les yeux en disant, que qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, prenez garde que personne ne le sache. Amen. Gloire à Dieu, c'est un beau passage que nous voulons de lire, et peut-être quelqu'un dans cette salle cet après-midi pourrait dire, oui, c'est quelque chose de merveilleux, c'est une belle histoire, mais le Seigneur Jésus, c'était en son temps, et aujourd'hui, il n'est plus là. Alors, je voudrais quand même rappeler à votre esprit, ou dire à ceux qui sont là peut-être pour la première fois, que dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 et verset 8, il y a un verset qui est très important, bien que la Bible est très importante, depuis la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Et ce verset dit ceci, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Le texte que nous venons de lire, nous pouvons dire, c'est hier, c'est le passé. Hier, c'est le passé. Mais aujourd'hui, eh bien, j'ai une vérité. C'est aujourd'hui. Hein ? On est bien d'accord ? Éternellement, c'est l'avenir. Éternellement, cela peut être merveilleux pour nous, ou pour chacun de nous. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui. La parole de Dieu, la bonne nouvelle, c'est un message d'aujourd'hui, et cela se comprend parfaitement parce que la parole de Dieu nous le révèle et nous pouvons aussi le comprendre, c'est que demain ne nous appartient pas. Mais aujourd'hui, c'est des instants qui nous appartiennent. Et aujourd'hui, est-il écrit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la voix du Seigneur, et le Seigneur te parle aujourd'hui, comment ? Au travers de la parole de Dieu. Il s'adresse à chacun de nous, il s'adresse à toi. Aujourd'hui, il est toujours vivant et puissant. Alors là encore, quelqu'un pourrait dire, mais monsieur Asquith, vous vous trompez, puisqu'il n'est pas là. Mais je viens de dire qu'il était là, aujourd'hui, et même au milieu de nous, il n'y a pas de problème, il est là, présent. Et il est vivant, que nous le voulions ou pas. Parce que, vous le savez comme moi, c'est Pâques aujourd'hui, et Pâques c'est quoi ? Pâques nous parle de la crucifixion de Jésus, et nous parle de la résurrection de Jésus. Vous voyez ? Il est mort, c'est vrai, c'était la volonté de Dieu qu'il monte sur la croix pour apporter le salut aux hommes, à toute créature. Mais le Seigneur Jésus, quand il s'est adressé à ses disciples, en ce qui concerne le temps de son départ, il leur dira, il faut que je monte à Jérusalem, il faut que je souffre, il faut que je sois crucifié. Et il a ajouté quelque chose de merveilleux, que tout le monde doit savoir. Et le troisième jour, je ressusciterai. Et la résurrection de Jésus a eu lieu le troisième jour, comme il l'avait dit. Ce qui prouve que les paroles de Jésus sont vérité. Parce que c'est les paroles de Dieu, et que Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment pas, la parole de Dieu le souligne, et c'est vrai, Dieu ne ment pas. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Jésus est ressuscité. Mais il est vrai que lorsque l'on compulse les saintes écritures, ou c'est juste de la résurrection, nous nous apercevons que les disciples, les membres qui le suivaient, qui avaient accepté son message, qui l'accompagnaient, qui étaient présents avec lui, les femmes, il y avait parmi ces gens-là beaucoup de tristesse. Mais il est vrai aussi que on peut trouver qu'il y a eu des prises de position tout à fait différentes à la résurrection de Jésus. Il y a eu des contestataires. Les uns ne savaient quoi penser de cette annonce qui avait été faite, le Jésus est ressuscité. D'autres auraient pu dire qu'ils étaient étonnés, comment se fait-il ? On peut chercher à comprendre, à savoir, si on n'a pas les bases, si on n'a pas les données, si on n'a pas entendu les paroles de Jésus à ce sujet, il y a de l'étonnement. Mais laissez-moi vous rappeler qu'il n'y a rien d'étonnant que Dieu ne puisse faire. Et Jésus savait, lui, parce que le Père lui avait dit, que trois jours après, il ressusciterait. Voyez-vous, il y a de l'étonnement, je l'ai dit, il y en a qui sont remplis de tristesse, les larmes coulent, il y en a qui sont dans la crainte, dans la peur, dans le doute, parce qu'ils étaient disciples. Que va-t-il nous arriver? On a perdu notre maître, qu'allons-nous faire? Vous voyez, beaucoup d'angoisse, beaucoup de crainte, beaucoup de peur. Et puis vous avez ceux qui ne croient pas du tout. Et quand on pense à cela, on se dit, tiens, le monde n'a pas changé. Heureusement quand même que du temps du Seigneur Jésus, il y en a qui ont cru. Ils ont cru. Pourquoi ont-ils cru? Parce qu'ils ont vu Jésus ressuscité. Si nous prenons l'exemple des femmes qui sont allées au tombeau pour embaumer le corps du Seigneur Jésus, quand elles sont arrivées, elles ont trouvé la pierre roulée et le tombeau vide. Et là encore, elle nous est dit que ces femmes étaient dans la tristesse, à tel point qu'elles n'arrivaient plus à discerner ce qui se passait autour d'elles. Il nous est dit que deux hommes avec un habit éclatant sont apparus, et elles croyaient avoir devant elles certainement des fantômes. Elles baissèrent la tête, elles avaient de la crainte, c'était, entre guillemets, dirais-je, de la panique. Mais ces hommes leur ont adressé la parole, et il leur a dit quelque chose de formidable. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus est ressuscité. Jésus est vivant, alléluia. Et là encore, en continuant à réfléchir sur ces choses et sur la résurrection du Seigneur Jésus, on s'aperçoit qu'il est ressuscité pour nous préparer et nous démontrer le chemin du salut. Mais il est monté au ciel pour nous préparer une place à nous qui voulons bien croire en ce Jésus-Christ, Sauveur ressuscité, qui se tient à la droite de Dieu et qui prépare une place avec Dieu pour ceux et celles qui croiraient en son nom, en son amour et en la parole de Dieu. Alléluia. N'est-il pas écrit dans l'évangile de Jean que celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Alléluia. Et quand on accepte le Seigneur Jésus dans son cœur et dans sa vie, quand on accepte l'amour de Dieu dans notre cœur et de lui abandonner notre vie, de lui faire confiance, comme on vient de le chanter, alors nous nous apercevons que ce Dieu est un Dieu fidèle et qu'il accomplit toutes les paroles qu'il a prononcées à l'égard de ceux et de celles qu'il aime. Non seulement nous sommes appelés à l'aimer, mais nous avons aussi une certitude, c'est que Dieu nous aime. Et dans cet amour uni, il y a pour celui et celle qui croit de grandes bénédictions et de grandes victoires. Et la plus grande victoire que nous pourrons obtenir, c'est la victoire de la vie éternelle qui est donnée à celui et à celle qui croit. Je dirais que on a, permettez-moi cette expression, on a tout à gagner à croire en Jésus-Christ, en croire à sa parole. Nous avons tout à gagner. Avec Jésus, c'est merveilleux de vivre. Dans notre texte, nous pouvons dire que deux hommes ont fait une expérience merveilleuse. Oui ou non? Ils étaient aveugles. Il n'y a rien de plus triste, entre autres, il y a toutes sortes de maladies qui nous amènent dans la tristesse. Mais ces gens-là étaient dans une grande tristesse, ils vivaient physiquement dans les ténèbres. Mais ils ont entendu que Jésus était là. Comme nous, après-midi, nous entendons que Jésus est au milieu de nous. Alors peut-être quelqu'un va dire, c'est vrai, Jésus est là, nous sommes disposés à les croire, mais nous ne sommes pas aveugles. De moi, je vous le souhaite, pas aveugles physiquement. Mais vous êtes peut-être aveugles spirituellement. Vous n'avez aucune connaissance de l'amour de Dieu, aucune connaissance de Jésus-Christ. Aucune connaissance des paroles, des promesses de Dieu, aucune connaissance de la vie éternelle. On vous a peut-être parlé un jour du paradis et vous avez peut-être dit, mais ça c'est bon pour les personnes âgées. Mais le paradis existe, la vie éternelle existe. Au risque de vous offusquer, je vous dirai, parce que c'est écrit et il ne faut pas le taire, qu'il y a un paradis et qu'il y a un enfer. Et là, c'est une question de choix. Où vais-je aller? Au ciel ou en enfer? Et je répète, je te dis que si tu crois, tu tu verras la gloire de Dieu. Tu ne verras pas l'enfer, tu verras la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, elle se manifeste tout au long de notre vie, quand on se tourne vers lui, quand on accepte d'écouter sa parole, quand on accepte de croire à ce qu'il affirme, et que nous le laissons pénétrer par sa parole et par le Saint-Esprit dans notre cœur, alors tout change dans notre vie, tout change. Et ce qui nous rendait aveugles tombe, les écailles des yeux tombent, et nous voyons la gloire de Dieu. Vous vous rappelez, vous qui lisez la parole du Seigneur et qui la connaissez, vous vous rappelez de l'expérience qu'a vécue Saul de Tarse avant de rencontrer le Seigneur. Il était aveuglé, cet homme, physiquement non, mais il était aveuglé. Il était à la recherche des chrétiens, il combattait les chrétiens. Son plaisir, est-il écrit, que c'était d'attraper les chrétiens, de les mettre en prison. Il connaissait aussi la finalité de ces chrétiens qui allaient en prison. La plupart ont été jetés aux fauves, ou alors enduits de houe et brûlés. Mais j'aime relire et penser que quand la lumière a brillé sur son chemin, eh bien, ses yeux s'obscurcirent, il devint aveugle. Mais quand il reconnut que ce Seigneur-là était sur son chemin, puisqu'il lui a dit « Que veux-tu que je fasse ?», ses écailles sont tombées des yeux. Et je dirais, les écailles spirituelles sont tombées des yeux. Il a vu la gloire de Jésus-Christ. Il a vu la gloire de Dieu. Alléluia. Quand on vient au Seigneur Jésus, quand on accepte sa parole, les écailles tombent. Et alors on peut contempler la gloire de Dieu. On peut vivre une vie tout à fait nouvelle avec Jésus-Christ. Car pour ces deux aveugles qui sont venus vers Jésus, ils ont eu, entre guillemets, dirais-je, gain de cause. Ils ont été guéris. Ils ont été guéris. Et d'une vie triste, d'une vie difficile, ils sont rentrés dans une vie joyeuse. Joyeuse parce que Jésus était devenu le maître de leur vie. Alléluia. Nous avons vu ici que dans cette lecture, ces deux aveugles osèrent s'approcher de Jésus, osèrent venir vers lui, osèrent implorer sa grâce, son secours, sa délivrance. Ils sont allés tels qu'ils étaient, en faisant connaître le besoin de leur guérison, le faisant connaître leur souffrance. Et Jésus n'a pas été indifférent. Et Jésus leur a mis les mains sur les yeux et il les a guéris. En un instant, il a répondu à la prière parce que dans le cœur de ces hommes, ils ont cru à la parole de Jésus. Ils ont cru à la parole de délivrance. Et là, en un instant, ils purent revoir le Seigneur face à face. Vous vous rendez compte ? Moi, je trouve ça extraordinaire. Je ne sais pas si vous allez partager cette pensée, mais ils sont aveugles. Ils parlent avec Jésus, ils ne voient rien, ils ne le connaissent pas. Et quand Jésus pose ses mains sur ses yeux, ils sont instantanément guéris. Et la première personne qu'ils voient, c'est le Seigneur Jésus. Ne veux-tu pas que Jésus pose tes mains sur toi en cet après-midi ? Ne veux-tu pas voir la gloire de Jésus ? Bien sûr, tu ne le verras pas d'une manière physique, mais tu sentiras en toi sa bonté, son amour. Tu verras sa force et sa puissance. Tu goûteras à sa miséricorde, à son pardon. Oh, si seulement tu voulais croire en ce Jésus sauveur, en ce Jésus libérateur. Si tu voulais croire aux promesses de Dieu et laisser tomber les écailles qui t'empêchent de comprendre, de saisir tout l'amour de Dieu. Si tu voulais ouvrir ton cœur à Jésus, alors en un instant tu serais délié de ce qui t'oppresse et de ce qui t'angoisse, de ce qui te trouble, de ce qui t'empêche de t'approcher du Seigneur Jésus. Et tu verrais de tes yeux intérieurs l'amour de Jésus-Christ pour toi, cet amour qu'il a manifesté à la croix en donnant sa vie pour que tu sois pardonné, sauvé et guéri. Quel amour merveilleux pour chacun d'entre nous cet après-midi. Alors bien sûr, c'était là au temps du Seigneur Jésus, c'est vrai. Mais vous savez, Dieu est bon, hein? Dieu est bon et j'aime lire que Dieu ne change pas. Il est éternellement le même. Et il sait répondre à tous nos besoins. dans l'Ancien Testament, entre autres, parce qu'il y a des exemples qui démontrent combien d'hommes et de femmes ont cru, mais je me suis penché sur ce aussi miracle extraordinaire. Et là, ce n'est pas un miracle physique, je dirais, c'est tout simplement un miracle matériel. Pour les lecteurs de la Bible, vous connaissez ce passage ou ce témoignage qui se trouve dans un roi au chapitre 4, versets 1 et 7, où cette femme veuve est venue vers le prophète pour lui faire comprendre son besoin vers le prophète Élisée. Elle était dans un gros et grand problème. Son mari est décédé. Elle n'avait pas assez d'argent pour payer ses dettes au propriétaire de la maison qu'elle habitait. Et si elle ne rendait pas l'argent qui était dû, ce propriétaire avait le droit de prendre ses deux fils et de les mettre en esclavage. Quelle situation, et on peut dire situation dramatique pour cette maman. Non seulement elle perd son époux, il n'y a plus de revenus qui rentrent, mais en plus, si elle ne règle pas rapidement ses dettes, ses deux enfants vont lui être enlevés. J'ose prendre ce mot catastrophe. Qui pourra intervenir? Qui pourra solutionner le problème? Alors cette femme, connaissant que le prophète Élisée était là, est allée vers lui et lui a fait part de ce problème. Et ce prophète Élisée, il lui a dit, écoutez, et il lui a dit, mais qu'as-tu chez toi? Qu'est-ce que tu as chez toi? Et cette femme a réfléchi et d'un seul coup, elle dit, j'ai un peu d'huile, un peu d'huile. Sous-entendu, comme dans un autre texte, j'ai un peu d'huile, je vais faire un petit manger, et puis après quoi, ben, la situation va encore s'aggraver davantage. J'aurai plus mon mari, j'aurai plus mes deux enfants, j'aurai plus rien à manger, donc ce qui m'attend, c'est la mort. Et le prophète Élisée a écouté. Prophète Élisée, donc, c'est un serviteur de Dieu, choisi par Dieu, oint par Dieu. Et il détenait la parole de Dieu, et il transmettait la parole de Dieu, et il va transmettre à cette femme la solution. Oh, une solution qui pourrait être risible pour certains, et pour les autres dire, c'est pas possible ça c'est pas possible. Mais je vous le rappelle, déjà, Dieu peut tout. Et la solution, elle est extraordinaire quand même. Et pour les sœurs ménagères, ça serait intéressant. Chaque fois que vous arrivez à un peu d'huile dans la bouteille, dire, Seigneur, tu peux remplir? Parce que c'est ça, en fait. Le prophète va lui dire, retourne chez toi. Quand tu seras chez toi, va chez les voisins et demande à chacun des vases. Et reprends ces vases, vide et ramène-les chez toi. Avec tes fils, tu fais cela. Et quand tu auras tous les vases, alors tu vas prendre le peu d'huile que tu as et tu vas verser de l'huile dans les vases. Je ne sais pas comment on aurait réagi. Et Seigneur, ce n'est pas ça que je lui ai demandé. Je lui ai demandé une aide. Ce n'est pas écrit, mais on peut supposer qu'elle aurait pu dire une aide pécuniaire. Une solution rapide, là, hein, pour pouvoir solutionner mon problème. Mais non. Tu prends ton huile et tu commences à remplir les vases. Cette femme n'a pas réfléchi, elle n'a pas discuté, elle n'a pas contesté. Cette femme a osé croire ce qui était impossible à voir s'accomplir. Un peu d'huile. Et j'essaie de m'imaginer, parce qu'il nous est dit qu'il y a eu de nombreux vases qui furent ramenés. Alors j'imagine un peu la scène, si vous permettez. J'ai un peu d'huile. Mais ça, comment ça va se faire avec tous ces vases maintenant? Est-ce que ça va se remplir avec ce peu d'huile? Et cette femme a dit, le prophète m'a dit de verser l'huile dans les vases. Alors puisqu'il a dit, je le fais. Je crois ce qu'il m'a dit. Et elle a commencé à verser. Et un vase, et deux vases, et trois vases, à ras-bord. Tous les vases, nous dit la parole de Dieu, furent remplis. Et figurez-vous qu'il est écrit et précisé que lorsque le dernier vase fut rempli à ras-bord, l'huile s'arrêta. Gloire à Dieu ! Vous ne voulez pas dire gloire à Dieu ? Parce que ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. C'est pour ça que nous devons dire gloire à Dieu. Mais le miracle, car il s'agit bien d'un miracle, même s'il est matériel, vous rendez compte, elle a pu vendre de son huile, elle a pu avoir l'argent nécessaire pour payer sa dette. Mais le plus beau, le prophète lui a dit, quand tu auras payé ta dette, tu auras de quoi assez vivre pendant tout le temps de ta vie. Alléluia, réjouissez-vous. Dieu est toujours le même. Jésus est toujours le même. La parole de Dieu est toujours la même. Les promesses de Dieu sont éternelles. Alléluia. Et elles s'accomplissent encore aujourd'hui. Amen. Est-ce que nous sommes prêts, nous, cet après-midi, à oser croire en ce que dit la parole? À oser croire aux promesses de Dieu pour ce temps présent, mais disons-le aussi pour notre avenir? Est-ce que nous sommes prêts à croire cela? Il y a tellement aujourd'hui, et il faut quand même le dire, des temps difficiles, des temps durs, des temps d'angoisse, des temps de crainte, des temps de peur. La parole de Dieu peut nous laisser comprendre que les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Peut-être certains pensent, mais qu'en sera-t-il demain? Mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, même dans les temps difficiles, tu verras la gloire de Dieu? Dieu prend soin de ses enfants et de ceux qui se tournent vers lui avec sincérité et vérité. Dieu est un Dieu bon, il est un Dieu droit, il est un Dieu juste. Alléluia. Osez croire, c'est tout ce que le Seigneur nous demande. Mais il est vrai que si le Seigneur agit sur le plan physique et s'il agit sur le plan matériel, il est aussi celui qui agit sur le plan spirituel. Il nous suffit de croire en lui. Il nous suffit de s'approcher de lui. Et dans le Nouveau Testament, permettez-moi de terminer par ce dernier exemple, il nous est dit que Jésus était dans une ville. Et là, il y avait un grand nombre de personnes autour de lui. Et il y avait dans cette même ville une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis plusieurs années déjà. Elle nous est dit, la Bible raconte ce fait réel, et elle dit que cette femme était arrivée au bout de ses forces. Elle aussi se trouvait dans la pénurie, elle n'avait plus d'argent parce que, entre guillemets, elle avait dilapidé son argent de médecin en médecin, et personne ne lui avait apporté la solution de la délivrance physique. Et là, dans sa maison, quand elle a entendu que Jésus était présent dans la ville, elle a pensé, elle a élevé un peu son âme pour elle-même. Mais elle a dit ceci, si seulement je pouvais aller auprès du Seigneur Jésus, si j'allais vers lui, et si seulement, je pouvais toucher le bord du vêtement du Seigneur Jésus, alors je serai guéri. Voilà une femme qui, sans voir le Seigneur Jésus, seulement parce qu'elle sait qu'il est là, ose croire que Jésus pourrait la guérir. Elle a osé. Mais elle n'a pas fait que seulement oser. Elle s'est levée dans sa faiblesse. Dans sa faiblesse, elle est allée dans cette foule. Il fallait fendre la foule pour arriver auprès du Seigneur Jésus. Elle a trouvé cette force nécessaire, ce courage, car laissez-moi vous dire, frères et sœurs et amis, que pour oser, il faut avoir du courage. Celui qui n'a pas de courage n'ose pas. Mais celui qui a du courage, il ose. Celui qui a confiance en celui qui a tout pouvoir aura le courage de venir et de toucher le personnage qui s'appelle Jésus, car cette femme a eu le courage. Elle est arrivée, nous dit, par derrière. Vous voyez, il y avait un petit peu de crainte, hein. Alors elle arrive par derrière. Et là, elle arrive et elle touche le bord du vêtement du Seigneur Jésus. Et en un instant, elle sent la guérison se faire dans son cœur. Oh, cela va être confirmé, c'est pas quelque chose qui sort de sa tête, de son imagination, car Jésus qui a senti quelqu'un qui le touchait, mais d'une manière particulière, va dire « Qui m'a touché ? Qui m'a touché ?» Et là, vous savez, il y a toujours des disciples hein, qui sont là, et l'un des disciples va dire « Mais Seigneur, vous voyez, avec « Seigneur, écoute, tu dis qu'il m'a touché, mais il faut quand même réaliser. » Ça, réaliser, c'est moi qui le dis, mais c'est sous-entendu. Il faut réaliser qu'il y a beaucoup de personnes autour de toi et que tout le monde te touche un peu. Mais Jésus a dit « Quelqu'un m'a touché, mais d'une manière particulière. » Et en se tournant, il voit cette femme, et cette femme, d'un seul coup, va dire « C'est moi. » C'est moi qui ai touché le bord du vêtement de Jésus. Et Jésus va regarder cette femme. Il ne va pas la réprimander. Il ne va pas lui dire « Qu'as-tu fait ?» Il ne va pas lui dire « Insensé. » Non, il va lui dire « Ma fille, tu es guérie. Ta foi t'a sauvée. » Oh que c'est merveilleux. Elle est venue chercher la guérison. Elle a cru en cette guérison. Elle a cru à la puissance du Seigneur Jésus. Elle a cru qu'il avait une parole de délivrance. Et elle l'a eu, elle l'a entendu. Mais ce qu'elle a entendu de plus, c'est pas qu'elle était guérie, c'est qu'elle était sauvée. Quelle grâce! Quelle grâce! Que veut le Seigneur pour toi en cet après-midi? Sinon, répondre à tes besoins. Mais arriver au point le plus dur, le plus crucial peut-être, c'est qu'il veut te sauver. Il veut changer ta vie. Il veut pardonner tes péchés. Il veut te donner une vie nouvelle. Alors peut-être tu pourrais penser et dire, mais c'est bien ce que j'ai entendu cet après-midi, mais je n'ai rien à me reprocher. C'est bien. Je suis juste. Alors là, excuse-moi, mais ami, quel que tu sois, ne prends pas ombrage de ce que je vais dire. Je vais te citer la parole de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul, sur la terre des hommes. Nous sommes tous coupables et tous condamnés. À moins que nous recevions le Seigneur Jésus dans notre cœur, comme notre sauveur personnel. À moins que nous nous laissions justifier par Jésus-Christ aux yeux de Dieu. Car voyez-vous, quand on parle de la crucifixion, il ne faut pas oublier que la crucifixion sont pour ceux qui osent croire en Jésus-Christ la justification. Ils sont justifiés dans la personne même de Jésus et dans le sang que Jésus a fait couler à la croix, car la Bible dit que le sang de Jésus nous lave, nous purifie de tout péché, c'est-à-dire nous justifie aux yeux de Dieu. Tout cela parce que Jésus, montant sur la croix, a pris notre péché, a pris nos iniquités, a pris nos travers, a pris nos passions, et en mourant sur la croix, il nous dit « Je suis mort pour te libérer ». Et pour faire de toi une créature nouvelle, un enfant de Dieu, ou une enfant de Dieu, quelqu'un qui va hériter de la vie éternelle. Alors encore une fois et en terminant, permets-moi de te dire, en cet après-midi, ose croire en Jésus, ose croire, et le Seigneur t'aidera. Vous savez, vite fait, je vais dire vite fait, mais... Dans la Bible, il y a un autre exemple que, avant de terminer, je cite, c'est l'exemple de Pierre. Pierre, vous connaissez tous l'apôtre Pierre ? Eh bien, Pierre, un jour, était dans la barque avec les autres disciples. Et Jésus est venu d'une manière vraiment qui surpasse toute intelligence, mais tout est possible à Dieu. Il est venu à leur rencontre en marchant sur les eaux. Rappelez de ça. Et puis, Pierre... Ce fougueux, je dirais, ce fougueux apôtre-là va dire au Seigneur Jésus, parce que Jésus a dit, « N'ayez pas peur, c'est moi !» Il croyait voir un fantôme. « Non, n'ayez pas peur, c'est moi !» Et Pierre, toujours le fougueux, va dire, « Mais si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne !» Sur les eaux. Mais Jésus ne s'est pas laissé démonter. Il lui a dit, viens. Bien, je ne sais pas vous, hein. Je ne sais pas vous. Mais Pierre, il est allé sur l'eau. Il a osé croire à la parole de Jésus qui lui a dit, viens. Il n'a pas calculé à ce moment-là, dans sa fougue, il n'a pas calculé que, en fait, il n'allait pas marcher sur la terre, mais il allait marcher sur l'eau. Et Jésus lui en a donné le pouvoir. Quand il a mis les pieds sur l'eau, Jésus lui a donné le pouvoir de marcher sur l'eau. C'est le seul homme que je connaisse qui a marché sur l'eau. Des fois, on vous fait croire, je me rappellerai de ces images où on faisait démontrer que l'homme marchait sur l'eau. Mais après, on s'est aperçu qu'en dessous, il y avait des piliers sur lesquels il marchait. Vous voyez, on peut gruger les gens. Mais pour Pierre, il n'y avait pas de colonne ou de rocher en dessous. Il marchait carrément sur l'eau. Et tant qu'il a marché, les yeux fixés sur Jésus, il tenait sur l'eau. Et à un moment donné, il y a eu du vent. Et il nous est dit, Pierre regarda au vent. Mes amis, pour vivre avec le Seigneur Jésus et pour attendre la vie éternelle, il ne faut pas regarder aux situations contraires. Il ne faut pas regarder au vent qui pourrait souffler. Mais la Bible nous dit que celui qui construit sa vie sur le roc Jésus-Christ peut venir la tempête et la maison ne croulera pas. Elle est affermie sur le roc. Jésus-Christ, parole de Dieu. En ce moment-là où Pierre a regardé au vent, son regard s'est détourné de Jésus. Il a perdu la notion de la parole de Jésus. Et il s'est enfoncé. Et c'est là que Pierre a crié, « Seigneur, secours-moi !» Et Jésus a dit, « Noie-toi !» Non, bien sûr que non. Il l'attrapa par la main. Il le remit sur ses pieds. Et ils rentrèrent tous les deux dans la barque. Que c'est beau. Osez croire. Osez croire en sachant que le Seigneur Jésus sera tous les jours avec vous. Osez croire que quand la difficulté surviendra, il sera toujours là. Il ne vous abandonnera pas et il vous remettra sur le roc, sur les promesses, sur la victoire. Car notre Seigneur, qui veut devenir votre sauveur et votre Seigneur aujourd'hui, c'est un sauveur victorieux. Il donne la victoire à ceux qui croient en lui. Et en terminant, je vous dirai, la plus belle de victoire, c'est de savoir qu'il est là pour pardonner nos péchés, pour nous laver intérieurement et pour inscrire au temps voulu, pourquoi pas cet après-midi, votre nom dans le livre de la vie éternelle. Alléluia. Alors, ça vous appartient. Je choisis de croire ou je réfute ce message. Mais sachez que vous ne changerez rien à la vision de Dieu pour vous. Ce qu'il veut, c'est vous sauver. Mais il vous sauve si vous le voulez, si vous le choisissez, si vous croyez. C'est peut-être pas agréable ce que je vais dire là, mais suivant votre choix, vous risquez de passer à côté du but éternel et de finir dans un lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ouvrez votre cœur au Seigneur. Laissez-le vous saisir par son amour. Abandonnez-vous avec foi dans toutes ses paroles et dans son nom et tout deviendra beau et merveilleux pour vous. Jusque dans l'éternité. Amen.
Seigneur, nous te disons merci pour ta parole.